Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Bondy Blog Café. Le Bondy Blog Centre vous propose aujourd'hui une émission au format particulier. Nous sommes en ce mercredi 11 avril dans l'amphithéâtre de l'École Régionale du Travail Social, l'ERTS, où vient d'être projeté le film César doit mourir. Cette émission portera sur différents thèmes, celui de la pratique d'activités artistiques, celui de l'incarcération et celui de la pratique d'activités socio-culturelles en milieu carcéral. Vous allez dans quelques instants être immergé dans le déroulement d'une expérience de débat citoyen. Habituellement animé par le GETS, le groupe d'étudiants en travail social, à l'initiative de ces ciné-débats, ce sont deux jeunes en service civique pour Unicité qui vont animer, qui vont faire vivre ce soir le débat citoyen. J'ai pour cela le plaisir d'accueillir Abdullah et Shaïsta. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
En quelques mots, Abdullah, est-ce que tu pourrais nous présenter l'association Unicité?
L'association Unicité est une association qui se trouve dans toute la France. Donc nous, notre mission, on est des volontaires, c'est-à-dire des personnes qui avons décidé de mettre de leur temps pour le service de la société. Notre mission, ça s'appelle Cinéma et Citoyenneté. Donc nous projetons des films dans des établissements. Donc nous nous adressons particulièrement aux jeunes personnes, notamment les lycées, les CFA. Et notre but, c'est d'animer des débats. Donc on regarde un film et puis par la suite, on discute avec les jeunes, on pose des questions et puis un débat citoyen qui se met en œuvre.
Alors, toi-même, tu es en service civique depuis octobre 2017, tu as 25 ans, tu es un jeune, tu t'adresses à des jeunes.
Tout à fait.
Il y a une volonté, justement, d'animer des débats entre pairs.
Oui, tout à fait, parce que le fait qu'on soit jeune, le fait qu'on s'adresse à des jeunes aussi, on a donc à peu près le même âge. Et puis, il n'y a pas la présence de personnes adultes. C'est ce qu'on essaye d'avoir le moins de personnes adultes, de personnes donc de l'administration. Comme ça, ça permet de libérer la parole.
Alors, quelques mots peut-être, Shaïsta, toi aussi. Donc, tu es en service civique depuis...
Moi, je suis en service civique depuis octobre. Et pareil comme mon collègue, je fais la même mission au cinéma citoyenneté.
D'accord. Alors, pourquoi des ciné-débats?
C'est des débats pour échanger avec les jeunes, pour ouvrir un esprit critique.
D'accord.
Et pour échanger avec eux.
Vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement des ciné-débats? Donc vous êtes venu à la rencontre du GETS, vous avez rencontré Hakim. Okay. Comment ça s'est mis en place, cette soirée?
Du coup, on avait des règles qu'on avait préparées déjà avant de venir ici au... En fait, on est préparé la méthode du cercle et après on a préparé les questions aussi pour thématique par rapport au film César doit mourir. Et du coup, on s'est mis d'accord par rapport au thème qu'on doit projeter.
D'accord. Donc voilà, pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent, César doit mourir, c'est un film italien qui est sorti en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et on va pas divulgâcher le film ou spoiler le film, on va simplement expliquer que voilà, on assiste donc à une sorte de docu-fiction dans lequel des personnes détenues en Italie pratiquent une activité artistique, le théâtre en l'occurrence, et doivent rejouer, interpréter la pièce de théâtre Jules César de Shakespeare. Voilà, c'est une immersion avec des images en couleur. Le film commence en couleur, termine en couleur, et entre les deux, c'est du noir et blanc. On est dans un docu-fiction, il y a des scènes qui sont bien réelles et puis d'autres qui sont plutôt imaginées. On a pour cette émission le plaisir d'accueillir Madame Bott qui est donc directrice départementale du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle a été éducatrice pénitentiaire en octobre 1977, elle avait commencé à être éducatrice pénitentiaire. Elle a fait des études de droit, elle coordonne les orientations de l'administration pénitentiaire pour accompagner les détenus ou les anciens détenus dans leur réinsertion et prévenir également de la récidive. Elle a deux lieux d'intervention, Montargis avec un milieu ouvert et un centre de semi-liberté, et également Orléans événement avec donc en milieu ouvert les bureaux situés à la rue de la Chèvre qui danse et en milieu fermé au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Par ailleurs, elle fait aussi, elle s'occupe de la coordination des CEPIP, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Bonsoir Madame Bott.
Bonsoir.
Alors, je le disais tout à l'heure, vous intervenez, vous coordonnez notamment, ça fait partie de vos missions, les animations d'activités socio-culturelles en milieu pénitentiaire. Pourquoi mettre en place des activités socio-culturelles en milieu carcéral ?
Alors, le milieu carcéral nécessite d'avoir une ouverture un maximum sur l'extérieur. Et le maximum sur l'extérieur, c'est aussi la culture. Pourquoi la culture ? Parce que souvent, alors, les personnes détenues, c'est pas leur priorité, soyons clairs. Ils ont d'autres priorités lorsqu'ils sont incarcérés que de s'inquiéter de la culture. Néanmoins, on se rend compte que tout ce qui est socioculturel, c'est des éléments extrêmement positifs et permettent, et on l'a vu à travers le film, alors même si c'est pas pareil en France, hein, je vous dis tout de suite, hein, ça permet quand même à un moment donné à ce que des personnes puissent aussi prendre du temps pour réfléchir pour eux-mêmes, prendre du temps pour aller de l'avant, s'interroger sur ce qu'ils vivent au quotidien, permettre aussi nous en tant que professionnels du social de les voir aussi au fur et à mesure des actions qu'ils peuvent mener changer. On voit quand même que un certain nombre d'outils culturels amènent du changement aussi pour les gens. Alors ça peut être rapide comme ça peut être moins rapide, mais la rencontre entre la culture avec tout ce que ça comporte et une personne, qu'elle soit détenue ou qu'elle soit pas détenue, c'est quelque chose d'important. Et détenue, c'est encore bien plus important.
Alors, il existe de nombreuses pratiques artistiques, de nombreuses activités culturelles. Quel type d'activité pour quel type de détenu ?
Alors, bon, moi j'ai cette particularité depuis de nombreuses années où j'ai une croyance très forte de la culture en général. Petit C, petite culture, ou grand C, grande culture, ça dépend aussi parfois des partenaires financiers, puisque lorsqu'on parle culture, on parle aussi de financement à l'intérieur de l'établissement. Tout art de culture, toute culture peut être proposée. Alors, on peut avoir du dessin, de la sculpture, on peut avoir de la musique, on peut avoir de la danse, on peut avoir du théâtre, de l'atelier d'écriture. Enfin, tout peut s'imaginer, même de la radio, ça peut même arriver. Voilà, il y a plein de choses, même un film, c'est un peu plus compliqué, c'est plus complexe quand on les met à l'extérieur. Mais tout ce qui existe à l'extérieur doit pouvoir rentrer. Alors, bon, mon administration, c'est vrai que c'est écouté. Mon administration est parfois est un peu plus. Il faut y être vigilant. Là, je disais par exemple sur les films. Rendez-vous compte que sur les films, lorsqu'on fait un film et qu'on dit que ce sont des gens qui sont des personnes détenues, il faut qu'on soit vigilant, qu'on leur demande l'autorisation, parce que vous voyez, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, leurs enfants voient sur l'étoile qu'ils ont été détenus, posent aussi des difficultés. Donc, il y a des règles de fonctionnement dans l'administration. Mais tout style d'acte de culture est faisable. On peut imaginer tout et n'importe quoi, mais moi je suis tout à fait d'accord pour imaginer vraiment tout ce qui est imaginable.
Alors, on a beaucoup entendu parler du milieu carcéral récemment en France, notamment avec la mobilisation des gardiens de prison qui demandaient plus de moyens. On a peu entendu, par contre, parler du SPIP, hein, le service que vous représentez. Ce soir, vous participez à un ciné-débat qui porte sur justement une pratique telle qu'elle est développée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Vous avez accepté mon invitation. En plus, on va le dire pour les auditeurs et auditrices, ça a été assez rapide, ça s'est fait la semaine dernière. Donc, je vous remercie encore d'avoir accepté. Selon vous, est-ce que vous vous intéressez, donc il y a beaucoup d'étudiants en travail social, à la manière dont la population française perçoit les actions de prévention d'une part de la récidive, puisque c'est ce que fait votre service, mais aussi de réinsertion des détenus ?
Naturellement, je dirais que de toute façon, même, j'irais même bien plus loin. J'aimerais avoir une vision de ce que pense la population française sur tout ce qui est la prévention, quelle que soit la prévention qu'on peut donner, que ça soit de la prévention de la récidive comme d'autres actes de prévention. On voit bien aujourd'hui, globalement, que c'est pas forcément quelque chose qui est dans l'air du temps en ce qui concerne notre société. Hein, aujourd'hui, on se rend compte que on met en place un certain nombre de systèmes plutôt dans la... On légifère beaucoup, on fait beaucoup de droits, beaucoup dans des lois qui sont un peu plus répressives. Voilà, il y a un peu de choses comme ça. Bon, et la prévention n'est pas forcément aujourd'hui un élément où vous allez dans la rue et vous demandez à quelqu'un de lambda en disant « Est-ce que vous croyez que d'aller faire une pièce de théâtre à des détenus, ça peut être quelque chose de positif ?» Sur 10 présents à qui on pose la question, j'aimerais bien avoir les réponses et on serait quand même terriblement étonné des réponses.
D'accord, on va donc laisser place au débat. Je vous rappelle que le débat donc va être animé par Shaïsta et Abdullah, tous les deux en service civique pour l'association Unicité. On a pris le principe donc pour ce débat qui sera radiodiffusé, le principe du bâton de parole, c'est-à-dire qu'il y a un micro qui va être distribué à ceux qui veulent prendre la parole. Et voilà, donc ça permettra justement de faire une restitution radiophonique. Madame Bott, moi ce que je vous propose c'est que au cours du débat vous puissiez nous faire part de votre expérience, témoigner de votre expérience. Donc je rappelle que vous avez été éducatrice pénitentiaire avant d'être directrice départementale du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Je sais par ailleurs, pour vous avoir déjà rencontré, que les choses ont bien changé depuis octobre 1977 quand vous aviez commencé, notamment en ce qui concerne les moyens mis en œuvre pour la pratique d'activités socio-culturelles en milieu carcéral. Abdullah Shaïsta, c'est à vous.
Je commencerai par une première question. Donc, l'art n'est-il pas la solution pour faire émerger du positif chez les détenus ?
Comme on le disait tout à l'heure, enfin comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que l'art c'est une des solutions qui permet de s'évader, enfin de voir autre chose en prison. C'est peut-être pas la seule chose au sein des prisons qui peut permettre cette évasion. Ouais.
Comme vous étiez en train de dire aussi, on peut voir que ça a créé une certaine dynamique de groupe. En gros, la pièce de théâtre au sein du truc, il y avait comme une sorte d'autorégulation. En gros, justement, quand vous parlez du conflit entre les deux personnes, il y a... Enfin, dans mes souvenirs, il y a quelqu'un d'autre qui est intervenu en lui disant « Oui, mais non, mais moi, c'est trop important pour moi, la pièce de théâtre, pour que ça s'arrête pour ça, en gros. » Et c'est à ce moment-là que même le groupe, il va s'autoréguler et tout. Donc, je pense qu'il y a un intérêt certain à mettre des activités comme ça en place, à créer une dynamique de groupe. Et quelque part, ils vont s'apporter mutuellement aussi au travers de l'activité, je pense.
Donc, un peu comme ce qui a été dit avant. C'est l'art, ça permet de s'ouvrir un peu sur le monde, et alors que la prison, enfin, ça les referme sur eux-mêmes. Ils sont toujours dans une cellule, donc au travers de l'art, ils peuvent s'ouvrir et du coup s'évader, mais par l'esprit. Voilà.
Donc, je passe à une autre question. L'art ne donne-t-il pas un goût à la liberté ? Puisqu'on voit à la fin du film, on a un personnage qui dit « Je ne me suis jamais senti aussi enfermé que quand j'ai fait du théâtre. »
Par rapport à ça, je pense que en fait, ce qui est intéressant avec l'art, c'est que il y a des notions qui apparaissent derrière tout ce travail-là. En fait, le monter une pièce, il y a besoin de ne serait-ce que de ponctualité, d'engagement, de respect. Toutes ces notions-là, en fait, que certaines personnes ne connaissaient pas de la même manière avant. Peuvent les développer, peuvent s'exprimer à travers ça, et ça permet justement la liberté, comme vous le disiez dans votre question. C'est pas simplement le fait de faire du théâtre qui est, c'est toutes les notions qui vont aussi derrière. Ça dépend aussi de comment elles sont amenées. Voilà.
Alors moi j'ai envie de dire, l'art est un outil qui est extrêmement important, mais il est pas, on vivra pas qu'avec l'art, hein, et les personnes qui sont détenues ont besoin d'autre chose. Mais c'est vrai que tous ces outils, enfin tous ces actes de culture et le théâtre notamment apportent aussi toute une réflexion groupale, hein, parce que c'est aussi ça, c'est comment on travaille au niveau du groupe, comment on s'accepte, comment on accepte l'autre, puisque quand même c'est un milieu un peu particulier, les gens qui sont à l'intérieur des établissements pénitentiaires ont des problématiques multiples et variées, et dans ce cadre-là, le théâtre permet de faire émerger des choses qu'ils n'ont encore pas forcément complètement ressenties, ou qu'ils vont avancer aussi là-dessus, et ça leur va permettre après, lorsque vous ou lorsque nous on travaille en tant que professionnels, d'amener des notions de respect, de ponctualité, des notions de pourquoi tel acte je l'ai fait, pourquoi je n'accepte pas les gens de telle ou telle façon. Tout ça, ça en fait partie. Mais l'outil artistique permet aussi, et moi je le vois souvent, permet aussi, et je suis toujours très étonnée de voir la capacité qu'ont les personnes détenues d'avoir un art instinctif. C'est assez fort quand je les vois travailler, alors peut-être pas sur le théâtre, mais par exemple sur du dessin, sur de la sculpture, sur des choses à faire avec leurs mains. Mais à chaque fois, quand moi je viens en fin de bilan, je suis là, puis je me dis, mais même moi, je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font. Ils ont cette capacité, avec des outils culturels, de s'ouvrir à autre chose et d'imaginer et de s'imaginer autrement ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ça qui est important. La culture, c'est aussi des éléments extrêmement forts pour tout le monde. Mais ça ne fait pas manger, hein. Ça ne fait pas manger. Il y a quand même. Enfin, si, il y en a certains. Enfin, heureusement, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Mais ce que je veux dire, pour les personnes qui sont détenues, il faut autre chose. Mais c'est des choses extrêmement fortes. Voilà.
Mais du coup, au travers de l'art, en gros, on peut retrouver les mêmes choses au travers de l'art que, par exemple, au travers du sport ou d'autres activités, quoi. Mais pour des personnes, par exemple, comme on voit dans le film, qui sont condamnées à perpétuité, qui sortiront peut-être, peut-être voire certainement jamais en vie de la prison, est-ce que ça peut, quelque part, leur suffire, ce petit espace d'évasion que représentera leur activité culturelle, sportive ou autre au sein de la prison? Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus à leur apporter?
Quand on a pris 20 ans au perpète, je vais vous dire, le temps est long, hein. Le temps est long. Et toutes ces actions, toutes ces activités ont un poids quand même dans leur quotidien. Hein. Ça bouscule le quotidien. Ça bouscule aussi leur vie, parce qu'il y a quand même une forme de monotonie. Hein. Quand on est pendant 15 ans ou 20 ans dans une cellule, alors ils changent parfois d'établissement, mais ça change aussi la monotonie. Et l'outil culturel permet aussi de travailler différemment. Pour des gens qui sont sur des délinquants, ce qu'on a vu, c'est aussi quelque chose d'important. Parfois, c'est difficile aussi de les accrocher parce que vous le dites tout à fait, c'est qu'arrivé à un moment donné, c'est relativement compliqué parce qu'ils savent que leur avenir n'est pas demain. Hein, leur avenir, alors ne parlons pas de réinsertion. Quand quelqu'un vient d'avoir 20 ans ou perpète, je veux dire, la réinsertion, c'est déjà qu'il puisse vivre sa détention sans trop de difficultés et qu'il puisse l'accepter.
Bah, excusez-moi, du coup, j'avais aussi une question par rapport à ça. C'est comment justement solliciter à travers une activité, je ne sais pas si elle est obligatoire ou imposée, les activités de médiation, comment on peut, pour des personnes qui ont pu vivre de façon hors la loi, en dehors de tout cadre, comment réussir à faire une activité où justement il faut un cadre et une rigueur? Comment on les amène justement à se libérer et à s'épanouir, entre guillemets, dans ce genre d'activité?
Alors, moi, je vais vous dire mon expérience. Hein. C'est-à-dire que là, sur Saran, on fait des choix. Moi, j'ai une coordinatrice culturelle qui est plus que ça. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Elle aurait dû être là, mais elle est à Dijon. mais elle aurait dû être là. En fonction de la connaissance qu'on a des personnes détenues, on propose des activités parce qu'on va aussi à leur rencontre pour leur demander ce qu'ils veulent. Alors, entre le moment où on a des détenus, lorsqu'on est sur une maison d'arrêt, qui nous disent, moi, je veux par exemple du slam, bon, que j'ai trouve les financements, un intervenant adéquat qui accepte de revenir en établissement pénitentiaire avec les contraintes qu'il y a et tout ce qui s'ensuit, parfois, ça met un petit peu de temps. Et puis après, eh bien, nous, notre travail à l'intérieur, c'est de donner l'information donc, aux personnes détenues. On fait des affiches, on essaie de faire de belles affiches pour que ça les intéresse. Et après, les détenus choisissent. C'est un moment fort. Ils ont le choix de dire oui ou de dire non. Après, nous, on a le choix de dire oui ou de dire non. Ce n'est pas forcément mon service, mais c'est aussi la détention. Si on met en détention, vous avez parfois des clans, vous avez parfois des groupes, et les mettre ensemble, parfois, ce n'est pas non plus ce qui est le plus pratique. Donc là aussi, nous, on est obligés de faire un filtre pour aussi, lorsque j'ai une activité où j'ai 25 ou 30 personnes détenues qui demandent, on a 10 places, on a 10 places, on n'en a pas, on n'en a pas plus. Donc là, on est obligé de faire des choix. Alors, on le fait en fonction de ce qu'ils sont capables d'accepter. On le fait aussi parce que la dernière fois, il y en a un qui a eu une activité, donc on le donne aussi à l'autre. Enfin, voilà, y a tout, c'est tout un travail, j'ai envie de dire, on fait ça... tout doucement, à point compté, pour essayer de faire que ça puisse fonctionner. Des fois, les phénomènes de groupe, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut motiver, mais ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement compliqué. Des groupes, on se dit, tiens, on a mis, ça c'est le super groupe, et paf, on en a un là-dedans qui n'est pas, enfin, qui supporte pas, où il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on a un détenu, le matin, il a eu une mauvaise nouvelle, il s'est pris encore 10 mois d'incarcération supplémentaire. Je peux vous garantir que quand il vient l'après-midi à l'activité, il n'est pas en pleine forme. Hein. Voilà, il y a tout ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement... voilà, il faut le retravailler. Mais ils ont cette capacité de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non. Maintenant, des fois, ils disent oui, mais ils ne viennent pas forcément. Donc là, c'est autre chose, mais bon.
Du coup, par rapport au fait de dire oui ou non, enfin... Enfin, les détenus de leur laisser le choix. On peut faire un peu un rapprochement avec notre pratique, avec la loi du 2 janvier 2002, de mettre la personne au centre de son projet.
Je connais aussi la loi 2002 parce que, accessoirement aussi, je suis présidente d'une autre association qui s'appelle la PLEAT, donc l'association pour l'écoute et l'accueil en toxicomanie. Donc la loi 2002, je la connais par cœur, voyez-vous, et j'ai d'autres activités périphériques aussi. Donc oui, oui, c'est là aussi, je vais vous dire, sur les personnes détenues, le choix de pouvoir faire une activité en détention leur appartient. Parfois, on les incite un peu, mais ça, c'est aussi le travail des professionnels, hein, des professionnels socio-éducatifs. Quand on estime qu'on a, par exemple, on travaille sur des actions en addiction, alcool, tox, tout ce que vous voulez, ou par exemple la mission locale qui vient pour préparer quelque chose, eh bien là, à ce moment-là, j'ai envie de dire, parfois, on essaye d'insuffler à certaines personnes détenues de, voilà, d'y aller, d'être présent. Maintenant, si en fin de parcours, il ne veut pas venir, ça lui appartient.
Juste pour ajouter quelque chose à cette question, c'est un petit paragraphe de la question. Comme je suis quelqu'un qui m'intéresse pas mal donc, à l'Amérique latine, j'ai vu le système carcéral de l'Amérique latine. On est citoyen français, donc c'est le meilleur du monde, mais on a par exemple... dans certains pays, la possibilité aux détenus, par exemple, de voir leur compagne, de voir leur femme. Il y a même, par exemple, si quelqu'un il a la compétence d'être un cuisinier, s'il a été, par exemple, il peut ouvrir un café, il peut ouvrir au sein du café. Donc, ça crée une petite vie à l'intérieur de la prison. Donc, est-ce que le modèle... carcéral classique, mettre des gens isolés pendant très longtemps, c'est utile, ou bien est-ce qu'on pourrait pas, je dirais entre guillemets, mettre de la vie malgré que c'est quand même la prison? Donc peut-être Madame Baud peut nous répondre, et puis les autres aussi.
Alors, les unités de vie familiale existent en prison, mais c'est extrêmement peu. Hein, par exemple, sur Orléans, nous avons 5 appartements pour que les détenus puissent, les personnes détenues puissent voir leur famille, leurs femmes, leurs enfants entre 6h et 72h. Hein, donc voilà. Alors c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que dans des pays latins où la fonction carcérale est totalement différente. Moi, je trouverais ça intéressant. Maintenant, je suis pas sûre que notre société soit aussi favorable que ça, hein, mais bon, voilà.
Du coup, pour mettre en lien avec c'est bon, t'inquiète. Pour mettre en lien avec les activités juste avant et la justice, du coup, j'ai fait un stage en CEF, en centre éducatif fermé. Du coup, PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Et moi, ce qui m'avait interpellé, c'était le nombre d'activités et les budgets ô combien importants qui étaient mis. Pour justement les activités des jeunes. Et au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était pas tout simplement de l'occupationnel. Parce que des fois, autant il y avait certaines activités, il y avait du sens, etc. Mais autant il y avait d'autres activités, elles étaient placées là, limite pour être placées là. Et je me suis demandé l'espace, du moins pour les jeunes, dans quelle mesure, pendant quel temps ils peuvent se poser et réfléchir par exemple aux actes qu'ils ont posés ou à la suite, etc. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas juste pour leur occuper l'esprit et qu'ils restent le plus sage possible quelque part.
J'ai été aussi au CEF en stage avant. Par rapport aux activités proposées, il y en a souvent qui étaient un peu imposées. Et du coup, mais après, ça rentrait aussi c'était dans un cadre judiciaire. Donc, au niveau du choix, des fois, c'était pas forcément permis. Donc, voilà. Et on se rendait compte, enfin, aussi, c'est que ça intervient pendant l'adolescence. Donc, il y avait toute cette problématique qui s'ajoutait aussi au même temps au quotidien et le fait d'être enfermé, quoi.
Alors sur les CEF, donc sur les mineurs, hein, puisque c'est dans ce cadre-là, le travail est différent par rapport aux établissements pénitentiaires adultes. Les activités sont normalement réfléchies de façon plus globale. Elles sont naturellement aussi parfois imposées parce que c'est tout un cheminement normalement qui est fait. C'est un projet de service. Donc voilà, normalement c'est dans un cadre de projet de service de l'établissement que les activités sont mises en place. Alors, soyons clairs, parfois on a aussi des temps occupationnels, j'ai envie de dire, même vous, à un moment donné, au quotidien, dans votre quotidien, vous n'avez pas des temps occupationnels? Des temps où ce que vous faites... Ouais, c'est pas forcément de la culture pure, hein, mais c'est aussi voilà, c'est exactement pareil. Il faut aussi qu'on puisse avoir ce temps. Alors, par rapport à la question sur comment travailler sur les actes délictuels, comment à un moment donné aborder ça, ça c'est le travail des professionnels qui sont à l'intérieur, des travailleurs sociaux, des éducateurs de la PJJ, moi, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. On a des outils, on a des programmes qui sont un peu particuliers, qui font que à un moment donné, on travaille avec les personnes sur le sujet, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens de prévention de la récidive sur un sujet, par exemple les mœurs, les addictions, la violence, enfin les trucs un peu basiques qu'on a de façon globale. Et donc à partir de là, on a tout un travail qu'on fait et qu'on amène les personnes détenues à réfléchir sur ça et de leur donner des outils pour qu'à un moment donné, ils fassent le choix de ne pas passer à l'acte. Parce que c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'ils puissent analyser eux-mêmes où ils en sont par rapport à leur acte judiciaire, leur acte qu'ils ont produit au niveau délinquance, et de trouver à un moment donné qu'ils trouvent eux-mêmes des moyens pour qu'ils ne passent pas à l'acte. Par exemple, quand je pense à certains jeunes, ou moins jeunes, parce que j'ai pas que des jeunes, hein, moi c'est à partir de 18 ans jusqu'à 75 ans à peu près, ou même plus, hein, ça peut être plus vieux. Hein. Quelqu'un qui dit à un moment donné, quand je sors de mon boulot, systématiquement mes copains me disent qu'il faut que j'aille boire une bière, alors je passe par la rue de droite et là il y a le café du coin, je m'arrête. Alors nous on travaille pour qu'ils se rendent compte qu'il vaut peut-être mieux pas qu'ils prennent la route de droite, mais qu'ils prennent la route de gauche parce qu'il n'y a pas de troquet entre les deux. Quoi. C'est des outils extrêmement basiques, mais c'est ça aussi, hein, ce travail-là, tous ces outils-là qu'il faut qu'on travaille au quotidien. quotidien. Et pour aller chercher du travail, eh ben, on se lève pas à 13h30, mais on y va à 8h30, quoi, le matin, ou à 7h30 dans les boîtes intérim. Voilà. C'est ça aussi notre travail qu'on doit faire.
Personnellement, par rapport à la question que vous avez posée de qu'est-ce qu'on pensait du système carcéral, moi, après, c'est mon avis, mais j'ai du mal à comprendre la justice française par rapport aux peines qu'on donne pour un délit, pour des trafics de drogue, par rapport à des viols ou de l'inceste. Par exemple, les peines pour les trafics de drogue, elles vont être beaucoup plus hautes que des viols ou des incestes.
Là, je peux vous dire que non. Je peux vous dire que non, parce que quand même, inceste et viol, aujourd'hui, ça tape. Inceste et viol, aujourd'hui, il y a quand même des condamnations importantes. Alors, si vous écoutez, si vous lisez les journaux, parfois la façon dont ils écrivent les retours de correctionnels ou d'assises, ça pose quelques questions. C'est vrai que le trafic de drogue aujourd'hui chez nous est quelque chose d'extrêmement, qui fait peur à la société en général. Et donc, le trafic de drogue est un élément fort. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le viol et les incestes ne sont pas condamnés. Par exemple, l'inceste et même les viols il y a 20 ans ou 30 ans, c'était des choses qu'on... Voilà, ça se disait pas trop et souvent les condamnations n'étaient pas si importantes que ça. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ce genre de choses parce qu'il y a des condamnations relativement importantes sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que la justice est multiple et variée. J'ai envie de dire, vous pouvez aujourd'hui, soyons clairs, aujourd'hui, n'importe qui peut se retrouver en établissement pénitentiaire. Vous fumez un petit joint, là, qui est un petit machin qui traîne, là. Vous faites prendre une fois, vous faites prendre une deuxième fois, vous avez un accident de voiture, vous pouvez être au trou. Aujourd'hui, rendez-vous compte et regardez bien les journaux. Quelqu'un qui se fait prendre alcool, tox en même temps, à un moment donné, c'est la prison, ce qui n'existait pas avant. Faut bien voir ça. Même si on peut considérer qu'il y a des problèmes de soins là-dessus, ça n'existe plus. Vous pouvez aussi aller en prison. N'importe qui peut aller en prison aujourd'hui. Vous avez un accident de voiture, un peu important, grave, et que vous avez ou un peu d'alcool ou un peu de cannabis dans le truc, c'est bon, vous y allez. Donc pensez bien qu'il faut y être extrêmement vigilant.
Et justement, le fait que tout le monde puisse y aller, on va dire aussi facilement, pensez que ce genre de mise en scène théâtrale, enfin faire du théâtre, pardon, au sein des établissements, ça permet de, je sais pas, de régler ces soucis-là qui peuvent aussi être des fois de la récidive ou simplement est-ce que c'est vraiment ça correspond à ce soit la réinsertion, soit à pousser à la réflexion par rapport à ces actes, c'est comment dire, ça répond réellement à ce problème-là?
Alors, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, à un moment donné, il y a un acte à un moment T, parce qu'il s'est passé un certain nombre d'éléments qui font qu'on est passé à l'acte. Quand on est en établissement pénitentiaire, c'est un autre moment. Et peut-être qu'à ce moment-là, si on rencontre les bonnes personnes au bon endroit, que ça soit culturel, ce qui est quand même relativement important, parce que c'est sans jugement. L'histoire du culturel, c'est aussi sans logement. Lorsqu'on a des gens qui veulent, par exemple, faire des actions de formation professionnelle, c'est plus compliqué parce qu'on en a certains qui n'ont pas la capacité de monter en compétence sur le côté professionnel. Par contre, sur le côté culturel, il y en a beaucoup qui arrivent. Donc, c'est un autre moment. Et cet autre moment-là peut être aussi un élément extrêmement performant pour la personne et qui puisse aussi avoir ce temps de réflexion. Alors, il ne faut pas non plus exagérer le temps de réflexion en prison. Il ne faut pas non plus que ça dure très très longtemps, mais ça peut être aussi un élément important. Ces outils culturels apportent aussi des choses autres qui leur permettent aussi d'abord d'évacuer ces problèmes-là, parce que leur délit, quand ils rentrent en détention, normalement ils recommencent pas. À l'intérieur, il y a normalement pas d'alcool et pas de produits. Donc à partir de là, lorsqu'on parle ce genre de choses, mais pour d'autres, ce que je veux dire, c'est que c'est un autre moment. Et si c'est un autre moment, ça peut être positif.
Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport au fait qu'une personne qui fume ou qui est alcoolisée et qui a un accident de voiture peut se retrouver en prison. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, si c'était le lieu pour des personnes comme ça, sachant qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'infraction dans leur vie, qui n'ont jamais eu de problème de justice. Voilà, je voulais savoir votre avis là-dessus.
Alors, je suis désolée, mais je suis du ministère de la Justice et il y a la loi. La loi, c'est la loi. Je peux pas faire autrement de vous dire ça, même si à titre personnel, je peux avoir un avis autre. Mais je suis sur mon côté institutionnel. La loi, elle peut changer. Il y a eu des lois, vous connaissez pas les jeunes, mais au moment, quand il y a eu l'avortement par exemple, l'avortement c'était un crime. Et la loi a changé, ça a plus été un crime l'avortement, selon certaines conditions. Donc si à un moment donné on n'est pas d'accord sur un certain nombre de lois, il faut pouvoir les faire changer. La prison n'apporte pas des réponses à tout. La seule chose qu'elle apporte, je pense moi, en ce qui concerne la prison, c'est de mettre à l'écart quelqu'un qui, à un moment donné, dans le cadre de la loi, n'a pas été sur le bon versant de la loi. Et on le met de côté. La prison, ça doit être que ça, hein, ça doit pas être autre chose. C'est-à-dire qu'on le met de côté pendant un certain temps parce qu'il n'a pas agi selon les règles de votre société, la société qui, à un moment donné, a fait que les lois ont été faites. Donc ça veut dire aussi que pour nous, en tant que citoyens, il est terriblement important de faire ces choix lorsqu'on va aussi, à un moment donné, avoir la capacité, par exemple, de voter. Là, je le dis aussi, c'est important parce que c'est le vote qui fait qu'à un moment donné, vous avez des gens qui sont dans certaines assemblées et qui vont voter les lois. C'est tout ça aussi. On a cette responsabilité-là aussi, nous, en tant que personne, en tant que citoyen.
Et justement, cette loi dont vous parlez et qui devrait être la même pour tous, dans tous les cas, malgré le contexte, etc., pourquoi on peut retrouver des personnes, pour ne citer personne, qui se retrouvent en garde à vue, en costume, et qui ressortent deux jours après sans... En rentrant chez eux. En rentrant, en passant la nuit chez eux, une garde à vue à domicile, quoi. Du coup, quelque part, est-ce que cette justice qui est certainement faite à deux vitesses, enfin, selon la personne, selon ses avantages, est-ce que du coup on peut parler d'une vraie justice, enfin d'une justice juste?
Alors la justice, elle est faite par les hommes. Enfin, quand je dis homme, c'est avec un grand H, homme ou femme. Avec tout ce côté aussi aléatoire, c'est-à-dire que, soyons clairs, pour le même délit, vous habitez le Nord, vous habitez Paris, vous habitez Marseille, vous n'avez pas la même condamnation. Pour la même chose, mais à pas grand-chose, le texte est bien particulier. Après, le sujet que vous m'avez donné est un sujet très intéressant que je ne me permettrai pas. Et là aussi, je suis institutionnelle à ce moment-là. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même aujourd'hui des gens qui sont aussi en prison à domicile. Sur le département du Loiret, sachez que, par exemple, on a entre 160 et 170 personnes qui sont en bracelet électronique, donc en prison à domicile sur le département en ce moment. Hein, c'est-à-dire qu'ils font leur peine chez eux. Vous voyez, donc, ils sont chez eux tout le temps. Et ils vont travailler ou ils ne vont pas travailler. Alors, pour information, par exemple, toutes ces personnes-là, dès qu'ils changent un horaire, c'est de la compétence des directeurs. J'ai plus de directeur, donc on est deux à se signer. Voilà. Donc, on a à peu près 300 changements d'horaire par mois parce qu'il y a des gens qui travaillent, ils trouvent du travail. Parce que lorsqu'ils sont en prison à domicile, par exemple, ils sont... peu et qu'ils n'ont pas de travail, ils sortent un peu le matin. Puis s'ils trouvent du travail, ils sortent plus. Donc vous voyez, voilà, vous parliez tout à l'heure quels sont les outils qu'on a. Ben, ça aussi, ça en fait partie des outils. Et même, par exemple, ils peuvent faire aussi des choses culturelles. C'est-à-dire qu'en dehors du travail, on accepte qu'ils puissent aussi aller à du théâtre, on accepte qu'ils puissent aller faire du foot, on accepte qu'ils puissent emmener leurs gamins ailleurs. Donc vous voyez, il y a tout ça. On prend en compte la situation de la personne là-dessus. Maintenant, les autres, ce qu'on appelle tout ce qui est col blanc, c'est notre société, elle est comme ça. Après, moi, je suis qu'une fonctionnaire zélée, je le dis souvent, et donc je suis dans l'obligation, la loi, c'est la loi. Si on lui a permis de faire ça, c'est que la loi le permet. Je redisais tout à l'heure, hein, la loi est comme ça, si on lui a permis, c'est que la loi le permet. Et à partir du moment où la loi le permet, on s'en sert comme on peut.
Moi, je voulais revenir sur un sujet d'actualité qui a fait beaucoup débat et qui a posé question à beaucoup de monde. C'était une jeune fille qui s'appelait Sarah, qui avait 11 ans et qui a été violée par un gars de 28 ans. Et en gros, elle a été forcée à lui faire une fellation. Sauf que ça a été rejugé comme... ça n'a pas été jugé comme viol. Parce que je crois qu'elle n'a pas dit non ou quoi. Ils ont jugé qu'il y avait consentement à 11 ans. Donc, il risquait grand maximum 5 ans, je crois. Ça a fait un grand débat et je voulais savoir dans ces situations-là, pourquoi est-ce que on parle de consentement alors qu'elle avait 11 ans.
Là, vous me posez une colle. Alors, vous ne me posez pas une colle, je vais vous dire, en tant que citoyenne, j'ai du mal à l'accepter. En tant que femme, en plus. Enfin, les deux, quoi. Hein. Après, la loi fait que les magistrats ont fait les choix. Arrivé à un moment donné, ce sont des magistrats qui jugent seuls, même si nous, on leur apporte un certain nombre d'informations. Ils sont seuls face à la décision. Et donc, à partir de là... Voilà, l'excuse de minorité, ça se discute, hein. On recommence à en rediscuter sur regarder Rosenberg, donc un magistrat très connu qui s'est occupé des mineurs. Regarder en ce moment tout ce qui est excuse de minorité, est-ce qu'on le fait à partir de 13 ans, est-ce qu'on le fait à partir de plus tôt, c'est une vraie question. Moi, je trouve ça, à titre personnel, je ne rentrerai pas à titre personnel, je me demande comment une enfant de 11 ans, même si elle est un petit peu bien foutue, tout ce que vous voulez, et puis donner son avis comme ça aussi facilement. Il y a des tromperies d'adultes, enfin, on est... Enfin, bon, voilà, j'ai du mal. Alors là, honnêtement, j'ai du mal. Maintenant, c'est pas moi qui ai jugé. Parfois aussi... quand on est à l'extérieur, on a une interprétation de ce qu'on a entendu par la radio, par la télé, par les écrits. Les magistrats ont d'autres éléments. Hein. Il faut bien vous dire qu'ils ne sont pas complètement fous quand même, les magistrats, quand ils font des choix. Et quand ils ont choisi de ce genre de choses, ils ont d'autres éléments. Ils ont d'autres éléments qui, parfois, nous, à l'extérieur, en tant que citoyens, on ne sait pas. Donc, voilà, moi, c'est de leur responsabilité. Hein. Alors là, je préfère que ce soit eux qui aient cette responsabilité que moi.
Bah, si je peux me permettre, donc, c'est vrai que c'est très intéressant, mais quand même, le but du débat, c'est quand même la culture. On n'est pas des gens spécialistes. Mais en tout cas, si je peux dire quelque chose, c'est que si vous faites une connerie, mieux vaut avoir Eric Dupond-Moretti. Là, on va pas se dire la justice à deux vitesses. J'aimerais bien l'avoir, moi, si je fais une connerie. Bah, j'en ferai pas, mais... Donc voilà, c'est pour remettre les débats. Bah, je voudrais en fait là donc poser une question pour reprendre un peu le débat. Donc est-ce que on a droit à une seconde chance ? Donc, c'est-à-dire, c'est vrai, quelqu'un peut faire quelque chose d'horrible, mais est-ce que vous pensez que nous, vous, peut-être les futurs acteurs sociaux, la société, doit accepter qu'une personne peut avoir une seconde chance par rapport à des actes qu'elle a commise. Est-ce que la société, elle accepte les gens qui ont fait des choses?
Donc, par rapport à la deuxième chance, je pense que... Enfin, nous, en tant que futurs professionnels, on a un seuil de tolérance qui est quand même plus élevé, que je pense, que la normale. Donc, par rapport à deuxième chance, il y a des établissements qui... Bah, déjà, qui s'appellent, par exemple, l'école de la deuxième chance ou... Il y en a peut-être d'autres qui s'appellent comme ça. Mais enfin, par rapport à mes expériences de stage, enfin, je sais pas, par exemple, quand on est en MEX, en maison d'enfants à caractère social, c'est pas parce qu'un enfant, il va poser des actes que forcément, le lendemain, bah, on lui fera, enfin, la misère, entre guillemets. Enfin, on essaye toujours de trouver une solution pour que ça puisse aller mieux après et que par la suite, ça continue.
Mais du coup, est-ce que tu penses qu'un homme, je sais pas, d'une quarantaine d'années, qui a violé une quinzaine d'enfants de 5 à 10 ans, il mérite une deuxième chance ?
Bah, pour répondre à ce que tu dis, déjà, une personne qui viole une quinzaine d'enfants, je pense qu'elle a besoin de soins. Donc, forcément, faut l'aider. Donc, après, je dis pas faut la pardonner, etc. Je dis pas faut la remettre dans une société, elle sera pas professeure des écoles avec des maternelles. Mais je pense que faut l'aider déjà au niveau soins, parce que je pense qu'il y a quand même un problème lié au psychiatrique. Et ensuite, après, bah, la réinsérer, c'est pas en la laissant croupir dans une prison ou la tuant que, en gros, on voudra pas mieux que ce qu'elle a fait à ce moment-là. Enfin, et puis je pense que en général, les personnes quand même, faut, comme il disait, il y a, en fait, on a tous un seuil de tolérance. Après, bah, je pense que toi, ton seuil de tolérance, c'est ça. Peut-être qu'une personne qui a violé, bah, tu pourras pas la pardonner, comme chacun a son seuil de tolérance et des choses qui passent pas, tu vois. Mais je pense après, bah, justement, les travailleurs sociaux, travailler en équipe, etc., c'est pour envoyer à l'autre et pour pouvoir toujours aider les personnes à aller mieux sans. Après, elles vont payer leurs dettes. En soi, quand elle est condamnée, elle est en prison, elle fait, je sais pas, 15 ans de prison pour viol. Quand elle sort de prison, bah ouais, bah moi je pense qu'il faut effacer l'ardoise. Faut pas encore lui coller l'étiquette de oui, bah t'as fait ça et toute ta vie, bah ça te restera derrière le dos. Je pense que déjà, elle y pensera assez. Elle aura eu le temps d'y penser pendant ses 15 ans de prison, par exemple.
Moi, je pense que quand on commet des actes comme ça, aussi barbares, aussi qui peuvent être aussi violents, aussi très durs à vivre, je pense que la personne qui fait ça, elle n'a pas une histoire toute belle, toute rose dans sa vie. Je pense que aussi, des fois, derrière, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mal-être, il y a beaucoup de souffrance. Après, je ne dis pas qu'on va pardonner, qu'on va excuser, mais je pense que derrière, on peut comprendre aussi, pas comprendre l'acte, mais comprendre qu'au vu de son histoire de vie, si c'est quelqu'un qui a vécu de l'inceste dans toute sa vie, qui a violé quelqu'un par la suite de façon assez barbare, bah, ça peut expliquer, ça peut pas pardonner, mais il faut aussi écouter un peu, pendant des assises ou quoi, l'histoire de vie de la personne.
Alors, soyons clairs, les histoires de viol, vous les voyez à la radio, c'est énorme, on en entend parler, on a que ça. Moi, dans un établissement pénitentiaire, c'est un dixième, c'est même pas un dixième. C'est 2% de ce que j'ai dans mes services. Le plus gros dans une maison d'arrêt, c'est celui qui a piqué je sais pas quoi quelque part, qui a bu un coup, qui a sur les problèmes de stup, qui a des violences parce qu'à un moment donné, il est pas bien dans sa tête, il rencontre quelqu'un et pof. C'est pas ma majorité. Ma majorité des gens qui sont en maison d'arrêt, hein, en dehors des grosses situations, c'est quand même du tout venant. Hein, c'est quand même du tout venant. Donc deuxième chance, troisième chance, quatrième chance. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai un seuil de tolérance qui parfois m'énerve énorme. Et alors, vous allez me dire, je suis femme et ce n'est pas forcément les histoires de viol et d'inceste. Ceux qui m'énervent le plus, c'est les escrocs. Mais les bons escrocs, les vrais escrocs, ceux qui sont avec les costards, là. Hein. Ceux-là, ils m'énervent parce qu'il y a un acte particulier, parce qu'ils le font d'une certaine façon. Ceux-là, je ne les supporte pas. Mais ça a toujours été dans ma carrière quand ils étaient face à moi. Au début, j'étais éducatrice, je ne vous dis pas comment ils en bavaient quand même. Hein. Parce que je disais, ben, vous, manque de peau, vous êtes fait avoir et vous êtes avec moi. Ce n'était pas ceux-là qui me gênaient le plus, parce qu'ils avaient ils étaient de quelque chose de très, c'était quand même une forme de mépris de l'autre pour escroquer. Mais des gros, hein, je ne dis pas les petits escrocs qui piquent un truc comme ça, là. Les vrais, les gros. Ceux qui sont sur des histoires de mœurs, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, ceux qui sont sur des histoires de mœurs, il y a une histoire de vie là-dedans. Nous-mêmes, quand on travaille, quand on est travailleur social, à un moment donné, c'est... Comment nous, si on avait le même vécu, est-ce qu'on aurait pu s'en sortir et ne pas passer à l'acte ? À un moment donné, il faut aussi se dire ce genre de choses. Est-ce que vraiment avec tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'ils ont vécu, comment on peut, j'ai envie de dire, pouvoir... est-ce que nous, vraiment, là... Voilà. Est-ce qu'on a eu les bonnes personnes à un moment donné ? Est-ce qu'on a eu un contact avec les bonnes personnes à un moment donné ou un autre ? Moi, heureusement que professionnellement, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, j'ai des gars, enfin bon, mes professionnels, j'ai des gars, ils ont le père, ils ont, enfin moi, ce que je disais, j'ai le grand-père, donc pas souvent la grand-mère, mais j'ai le grand-père, j'ai le père, j'ai le fils, j'ai le petit-fils, j'ai des familles complètes. Ben, c'est pas des gros trucs, hein, mais ça aussi, ça y fait par rapport à ça. Et il faut... À chaque fois, mais ça c'est notre métier, à nous, à un moment donné, il faut à chaque fois se dire, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché ? C'est peut-être sa situation à lui, mais nous, qu'est-ce qu'on a mis devant ? Qu'est-ce qu'on a proposé ? Qu'est-ce qu'on leur a proposé pour avancer ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Mais ce n'est pas grave si on se trompe, c'est parce qu'on a proposé la ligne A, mais il fallait la ligne B'. Eh bien, la prochaine fois, on va lui mettre B', mais comme il aura quand même avancé lui-même la personne, eh ben, on mettra le C. C'est ça aussi la vie au quotidien, c'est-à-dire qu'il faut systématiquement trouver d'autres pistes, d'autres travails, et puis il faut... à chaque fois recommencer. On a des gens qu'on a régulièrement parce qu'ils ont des rechutes. Et après, il faut analyser les rechutes. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont rechuté dans les actes délictuels ? C'est ça aussi, ça c'est notre métier. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont passé de l'autre côté ? C'est à nous de travailler avec eux et de les amener à ce qu'ils puissent eux-mêmes découvrir pourquoi ils sont passés de l'autre côté. Mais il faut le faire plusieurs fois. Je veux dire, moi, il y a des fois où... Et pourtant, il y en a où on fait des rapports et hop, on les met au trou et hop, on recommence, ils reviennent, ils ressortent et hop, on refait encore un rapport parce qu'ils n'ont pas entendu. Et puis, l'âge venant, les rencontres venant, des situations changent. Et parfois, il y a des fois où on ne les voit plus. Moi, je disais, quand j'étais professionnelle, vous savez, on lit le journal parce que quand on lit le journal, on a nos petits gars là qui passent. Souvent, des fois, on ne sait pas forcément, puis on les voit passer dans le journal, on dit mince, ils sont repassés par le tribunal. C'est quand même un peu embêtant. Moi, je disais, des fois, quand je ne les vois plus dans le journal, je suis très contente. Alors, parfois, ils ont changé de département, donc c'est dans le journal du coin. Mais voilà, mais des fois, et moi, j'ai vu professionnellement, j'ai vu des gens qui sortaient de prison. 2 mois après, ils rentraient. Après, pendant un certain temps, ils étaient un peu plus longtemps. Et ils restaient 6 mois dehors sans rentrer. Et puis après, 1 an dehors. Mais c'est... Voilà. Et à chaque fois, on a proposé quelque chose. 2e, 3e, 4e chance. C'est notre métier.
Donc, en fait, ça va permettre donc, de poser une question qui, est un peu, qui suit la ligne. Donc, est-ce qu'on reste détenu toute sa vie, même si on n'est plus en prison ? Donc, c'est vrai que... Quand on a fait de la prison, donc on a fait quelque chose contre la société, mais est-ce que dans le regard de l'autre, on reste toujours un détenu ? Ou peut-être n'est-il pas le rôle de vous, acteurs sociaux, bah, d'avoir un regard humanisant qui la permettra peut-être de ne plus se sentir détenu ? Parce que si quelqu'un a fait une erreur et qu'à chaque fois on lui dit « tuer quelqu'un qui est en erreur », bah, ça lui donnera pas trop envie de se mettre. Par contre, quand on a un regard humain, même si c'est dur, même si c'est chiant de trouver quelqu'un qui a fait une connerie, bah, le supporter, le regarder d'un œil humain, ça lui permettra bah, de vouloir de se réinsérer, peut-être de devenir quelqu'un à 180 degrés. Il y a plein d'exemples comme ça, des gens qui ont fait des conneries et puis qui sont devenus des gens bien. Il y en a même qui sont devenus des stars. Je pense à Al Pacino, parce qu'on regarde un film italien.
Bah, on peut prendre l'exemple de Bertrand Cantat, qui a tué sa femme. Il a fait sa peine et il est sorti quelques temps. Et on voit un peu toutes les polémiques qu'il a eues autour de ses concerts qu'il a remis en place. Et avec des personnes qui venaient devant, qui l'insultaient, qui... Voilà. Alors après, il y a eu des concerts qui affichaient quand même scène pleine. Mais au contraire, il y avait des personnes qui venaient polémiquer devant. Il y a même eu des émissions sur ça. Enfin, ça fait encore débat. Je pense que quand on a fait une détention, tout le monde, on a tous... Enfin, même si on peut être tolérant, on a quand même des préjugés, des fois. Et on peut pas... Enfin, quand on sait des choses sur l'histoire d'une personne, c'est humain d'avoir des préjugés. Après, il faut aussi essayer d'aller au-delà de ça et d'apprendre à connaître la personne. Mais certains vont s'arrêter que sur cet acte. Et vont pas aller creuser plus loin. Et voilà, après, il y a aussi toutes les... Quand on veut travailler dans certaines professions, il y a besoin d'un casier judiciaire vierge. Enfin, il y a plein de choses où, quand on a été détenu, l'insertion, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pas forcément facile pour tout le monde.
Après, là, pour élargir un peu le débat, sans forcément parler de détenu, par rapport au poids de la société qu'elle peut avoir sur les personnes... Enfin, je prends quelque chose qui a fait polémique il y a quelques temps, c'était par rapport à The Voice. Une jeune fille qui avait participé, elle s'est qualifiée pour les phases suivantes. Et elle a eu un passé où elle a... Enfin, c'était par rapport aux attentats. Elle avait mis des tweets... Et le poids de la société a fait que elle arrêtait l'émission, pardon.
Alors c'est vrai que c'est des choses particulières. Sur le dernier exemple, aujourd'hui, dans la situation qui existe autour du terrorisme, parce que c'est ça aussi, et des propos que certaines personnes ont tenus quels que soient les outils de communication, pose quand même quelques difficultés. Sachez quand même que nous avons des services spécialisés en France qui font très attention. Voilà, ça montre, là, on travaillerait sur tout ce qui est communication Internet qui aujourd'hui apporte des problématiques particulières. Hein, je crois que ça, c'est important aussi de le dire. Il faut y être extrêmement vigilant. Maintenant, voilà, la société est très... Elle est aussi très ambivalente là-dessus, hein, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué. En ce qui concerne Bernard Cantin, mais moi je suis d'accord, c'est-à-dire que ça me met dans des rognes pas possibles, parce que j'estime qu'à partir du moment où les gens ont, j'ai envie de dire, ont été condamnés, ont payé leurs dettes à la société, on ne devrait plus en parler. Alors, on en parle parce que, bon, on peut en parler, mais à un moment donné, on ne devrait plus remettre en cause, parce qu'on remet en cause. Là, c'est un peu le lobby des violences conjugales. Alors là, bon, ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui, c'est tombé dans des périodes où ce phénomène-là a été mis bien en avant. Moi, j'estime qu'il a été condamné, il a fait une partie de sa peine, ça a été des choix qui ont été faits par les magistrats où il était, donc à Vilnius. Il est revenu en France, il a terminé en France. Maintenant, c'est un artiste, il veut travailler de son art. Et donc, s'il veut travailler de son art, c'est normal qu'il puisse travailler de son art.
Alors, comment vous expliquez que dans certains métiers, il y a besoin d'avoir un casier vierge ?
Alors, sur le casier... Ça, c'est... Oui, alors...
Évidemment, je comprends qu'avec des enfants...
Si vous voulez,
enfants,
tout à l'heure, on parle de gens qui ont des problématiques de mœurs et qu'on va les mettre dans les écoles, ça pose quand même quelques difficultés.
Ah ouais, mais
vous voyez pourquoi ? Non, je suis d'accord avec vous. Le casier judiciaire, même l'administration, qui devrait être encore plus volontariste, l'administration ne veut pas d'un certain nombre de gens qui ont des condamnations. Et après, il y a des condamnations qui, après tout, sont pas non plus diffamantes, enfin, qui sont des condamnations, voilà, alcool, tox, un petit truc, enfin, une engueulade qui a pris une proportion pas possible, enfin, tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Mais c'est des choix de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des choix de société, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les lois ont été faites de telle façon qu'il y a le B1, le B2 et le B3. Vous savez qu'il y a trois bulletins, 1, 2 et 3. Mais le 1, c'est que la justice, c'est que nous. Et le 3, c'est celui qui est beaucoup plus élagué un petit peu par rapport à ça. Non, mais je suis d'accord avec vous, certains métiers nécessitent quand même une certaine sécurisation d'un certain nombre de lieux et qu'il y ait parfois nécessaire de s'assurer qu'il n'y a pas des condamnations particulières. Par exemple, sur cette jeune femme, donc The Voice, mettons qu'elle veuille rentrer... dans certains services de police, ça poserait quand même quelques difficultés particulières parce qu'elle a eu des propos qui, à un moment donné, correspondaient à ce qu'elle pensait. Parce que si elle l'a écrit, personne ne lui a demandé de l'écrire. Ça lui a pensé. Est-ce que ça peut être nuisant ou pas ? On dit aussi qu'il faut donner une deuxième chance. C'est peut-être un truc de jeune. Enfin bon, après, j'ai envie de dire, sur cette problématique-là, parfois, il y a des propos qui partent très vite à la volée et qui ne correspondent pas forcément à voilà. Maintenant, quand on est sur les réseaux sociaux, il faut savoir que ça reste et que ça reste longtemps et qu'il faut y être vigilant.
Après, je pense que c'est un autre débat, mais c'est vrai que la société, elle a un poids lourd sur l'avenir des gens, parce que cette jeune femme-là, elle a quand même perdu son métier à cause de ça. Elle était prof d'anglais, donc bref, rien à voir. Après, ça, c'est mon avis personnel. Mais par rapport au casier judiciaire, je voulais rebondir parce qu'il y a des gens, ça fait encore polémique, ils ont un casier judiciaire, ils ont été condamnés par exemple pour pédophilie, c'est dû arriver il n'y a pas longtemps, et en fait on les a retrouvés professeurs des écoles et ils ont recommencé. Donc au final, est-ce que le casier judiciaire, est-ce qu'il est systématiquement vérifié ou pas ? Enfin, je ne sais pas si vous pouvez
répondre. Sur certains métiers, oui, mais à un moment donné, parfois les gens sont rentrés, ils n'avaient pas de... Tant qu'ils ne sont pas condamnés, eh bien, c'est pas inscrit. Si vous voulez, il y a des métiers... Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui travaillent dans certaines administrations, qui, quand ils ont démarré, ils avaient 20 ans, 25 ans, ils étaient propres sur eux. Et puis, entre-temps, la vie a fait qu'ils ont vieilli et ils sont passés par la case condamnation, je ne veux pas forcément dire prison, mais des cas de condamnation qui peut poser quand même des difficultés. On ne revérifie pas, on ne revérifie pas. C'est à certains moments, c'est des choix à certains moments qui sont faits là-dessus. Ça, c'est des choix de société. Là aussi, la société, c'est notre société, c'est la nôtre, ensemble, et c'est aussi le poids qu'on veut bien lui laisser. Arriver à un moment donné, s'il y a des gens qui sont capables de pouvoir dire « mais je ne suis pas d'accord ». Regardez par exemple la peine de mort en 81. Quand à un moment donné, on a fait le choix de la peine de mort, de dire « on est contre la peine de mort en France », il fallait bien vous savoir que l'opinion publique était contre. Mais quelqu'un a eu le courage de dire « non ». C'est ça aussi. À un moment donné, nos gouvernants doivent pouvoir avoir des décisions qui soient peut-être à l'inverse de ce que pense la société. Mais des choix de société, organisation, enfin voilà, des choix de société de vie là-dessus. Mais c'est vrai que, voilà, à un moment donné, en 81, sur l'abolition de la peine de mort, quelqu'un dit j'y vais pas. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement parce que l'Europe l'obligeait aussi à le faire. Mais ça, c'est autre chose.
Moi, j'aurais une question, en fait, à vous poser. Sur le Bondy Bloc Centre, en début d'année, enfin, début de rentrée scolaire, l'année dernière, en 2017, on a fait un article, c'est Pauline Trussardi, sur la justice restaurative. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un système inspiré du Canada qui permet d'inclure la communauté citoyenne dans la réinsertion des détenus. Alors, rapidement, il y a eu une réunion d'information qui était faite rue de la Chèvre qui danse. Il nous a été expliqué que pour accompagner la personne dans sa réinsertion, il y avait un premier cercle de citoyens, voilà, avec laquelle l'ancien détenu avait rendez-vous toutes les semaines, enfin, avec une fréquence préétablie. Et un deuxième cercle de spécialistes avec des psychologues, des médecins, des personnes aussi pour l'accompagner dans sa recherche d'emploi, afin d'accompagner l'ancien détenu dans sa réinsertion et l'empêcher, par exemple, comme le disait Madame Bott tout à l'heure, en prenant l'exemple d'une personne qui avait des problèmes avec l'alcool, d'éviter les lieux qui vendent de l'alcool. Et là, par exemple, donc, il s'agissait de mettre en place un cercle de justice restaurative pour des détenus qui avait fait des actes pédophiles. J'aimerais avoir un peu votre retour en tant que jeune travailleur social, en tant que citoyen. Dans quelle mesure vous seriez prêt à vous impliquer ou vous investir dans ce type de mesure où le citoyen est appelé à réintégrer dans la communauté, puisque c'est comme ça, c'était les termes qui étaient employés, à réintégrer dans la communauté une personne qui a été détenue, qui a fait sa peine, qui a été jugée par ses actes, qui a payé ses actes, mais on en a parlé en plus au cours de cette émission, le risque de récidive, en même temps que je suis en train de parler, donc on va le faire, voilà. Donc le 19 avril à 18h, il y a une soirée de sensibilisation, enfin je le redirai, voilà. Dans quelle mesure vous seriez prêt à intégrer ce type de cercle pour contribuer à la réinsertion de ces personnes détenues d'une part et aussi à la lutte contre la récidive, parce que, alors je vais vous donner des chiffres qui sont issus du Canada où l'expérience a été menée pendant longtemps. On divise par 10 le risque de récidive, on passe de 20%, alors après c'est fait sur plusieurs années, sur 5, 10, 15, 20 ans, mais au total on divise presque par 10 le risque de récidive. C'est-à-dire que la réinsertion de la personne détenue permet aussi de lutter contre la récidive et donc de protéger, puisqu'on parlait d'actes de pédophilie, de protéger autant d'enfants victimes. C'est-à-dire que là, le citoyen lambda, moi-même, vous-même, peuvent permettre aussi de protéger la société d'individus qui peuvent être dangereux pour la société et pour eux-mêmes dans la mesure où ils paieront de leurs actes. J'aimerais bien voir des réactions.
Moi, je voudrais savoir, en fait, comment, du coup, les personnes sont accompagnées. J'ai pas bien compris, du coup...
Alors il y a deux cercles, il y a un premier cercle fait de personnes comme nous, enfin comme vous et moi, issues de la communauté, puisqu'il s'agit de réintégrer la personne détenue dans ce qu'ils appellent la communauté, et un deuxième cercle fait de spécialistes. Voilà, et ces deux cercles, ces trois cercles, enfin la personne détenue est au centre de ces deux cercles, et ces deux cercles peuvent évidemment communiquer entre eux.
Alors, le premier cercle, c'est le citoyen lambda. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, ce que je vous ai fait passer, on recommence de faire un deuxième cercle. C'est le citoyen lambda, donc ça veut dire que ce sont des personnes qui s'impliquent et qui accompagnent une personne de façon très régulière, c'est-à-dire qu'il y a une formation, il y a des professionnels qui viennent. Là, on fait venir donc des gens du Canada, donc des professionnels du Canada pour faire la formation. On fait venir la personne qui est au niveau de la France, la personne la plus adaptée à ce travail. Et la personne qui a eu une problématique de justice, et c'est souvent pour des histoires de mœurs, elle peut contacter ces personnes-là à n'importe quel moment. C'est-à-dire que on fait un environnement autour de la personne. Il y a 4 ou 5 personnes, il y a des gens de permanence. Et la personne, si elle sent qu'elle va passer à l'acte, si elle sent que c'est compliqué, si elle sent qu'elle est sur le bord de passer sur quelque chose d'autre, elle peut passer un coup de fil. On donne des téléphones aux gens. Enfin, c'est très codifié. Hein, c'est très codifié. Et à ce moment-là, la personne peut être rencontrée par un des membres. Ils se rencontrent au moins une fois par semaine, donc il y a un engagement extrêmement fort. Une fois par semaine, on rencontre la personne de démarrage. Elle peut dire ce qu'elle a, ses difficultés, pourquoi elle n'a pas trouvé son travail, pourquoi elle pense qu'elle risque de passer à l'acte. À un moment donné, par exemple, on avait quelqu'un qui était sur des histoires de mœurs. Il a trouvé une compagne qui avait des enfants, mais on lui a dit, est-ce que c'est très sérieux, vous n'êtes pas complètement... faites attention, ne vivez pas tout de suite chez elle parce que vous risquez d'avoir des difficultés. Donc il arrive à dire un certain nombre de choses. Donc là, c'est vraiment un accompagnant très lourd, relativement lourd par rapport à ce sujet-là. Au Canada, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Alors au Canada, c'était plutôt les structures d'église qui ont fait ça. Hein. Donc c'était plus... par les prêtres qui ont commencé, mais en France, c'est plutôt des professionnels. Donc là, on cherche, nous, des bénévoles. On a déjà démarré déjà à la fin de l'année. On en cherche une deuxième fois parce qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup de ces publics. Et lorsqu'on parlait des publics qui ont cette problématique de mœurs, souvent, quand ils sortent de prison, ils sont très éloignés, ils n'ont plus de famille. Et on parlait sur l'histoire de peur. Ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus de lieu. Il y a plein de choses comme ça. Donc cet environnement-là leur permet de supporter la solitude parce que souvent, on se rend compte quand même que les gens qui ont des problématiques judiciaires lourdes sont seuls et sans accompagnement, sans rien.
Pour le après, justement, combien de temps ça dure en moyenne?
Alors ça peut durer 1 an à 2 ans.
D'accord.
Et après, ça se module, hein, c'est-à-dire qu'après, on retravaille un petit peu avec la personne. Il faut aussi qu'on l'amène à l'autonomie. Hein, faut qu'on lui permette de s'autonomiser. Hein. Mais ça veut dire qu'elle peut aussi avoir un contact. Une fois que ce travail est fait, elle peut avoir un contact avec un des bénévoles qui continue de pouvoir le répondre, mais peut-être de façon plus allégée. Hein, parce que bon, au démarrage, c'est toutes les semaines. Mais bon, donc vous voyez que c'est quand même une implication forte. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait 4 ou 5 personnes autour pour qu'il y ait des permanences, pour que voilà, que ça soit pas toujours les mêmes qui soient présents tout le temps, parce que sinon, ce serait pas gérable. Et en France, on n'est pas très habitué à ce genre de travail.
Non, parce qu'en fait, par rapport à ça, je trouve que c'est une bonne initiative, mais ça va être un peu mon côté pessimiste. Je ne sais pas si actuellement, de façon sociétale, on est prêt à accepter ce genre de choses. Dans le sens où, comme on le disait, et puis même entre nous, et là, la question tout à l'heure, je voulais demander si la question sur la seconde chance, si c'était d'un point de vue personnel ou professionnel, si on était capable justement d'aller au-delà de ces limites. Parce que pour le coup, au Canada, eux, ils sont préparés, ils l'ont accepté, ils sont passés à autre chose. Mais est-ce qu'en France, vraiment, actuellement, on est capable de, même si, effectivement, le taux de récidive est de combien de...
Il peut être divisé jusqu'à 10. Jusqu'à donc après, 10, c'était des études qui étaient faites 5 ans, 15 ans ou 20 ans après. Parce que l'acte peut être reproduit 15 ans après.
D'accord. Parce que c'est énorme. Mais et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Est-ce qu'après, ils peuvent vraiment retrouver une place dans notre société, quoi?
Il faut être visionnaire. À un moment donné, je suis désolée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence. Il faut être visionnaire. Le Canada a été visionnaire sur ce sujet-là parce qu'ils ont des pratiques autres. Mais nous aussi, il faut qu'on soit visionnaire. Si on ne commence pas, voilà. Alors, je peux vous garantir que moi, mes professionnels travaillent sur ce sujet-là et qu'ils y passent du temps. Hein. Je peux vous garantir que c'est quand même très important. Mais il faut y aller. Hein. Je crois qu'il faut... Alors, que nos sociétés ne soient pas fer de lance là-dessus, Oui, mais quand même, lorsqu'on a eu des lorsqu'on fait ce genre de réunion, qu'on explique aux gens ce que c'est que la justice restaurative, il y a plusieurs formes. Eh bien, on a du monde, et c'est ça qui est important, ce temps de rencontre avec les citoyens lambda, classiques, et qui peuvent, à un moment donné aussi, être un porte-parole ailleurs, à autre part. Donc, soyons visionnaires et soyez visionnaires.
Donc, par rapport à être visionnaire, la semaine dernière, à Tours, il y avait le congrès de l'UNIOPS. Donc, c'est l'Union nationale interfédérale des œuvres d'organismes privés sanitaires et sociaux. Et donc, à la fin, ils ont posé une question sur quel type de société on aimerait promouvoir. Est-ce qu'il y avait quatre propositions? Je ne me souviens plus des quatre propositions, mais celle qui a été retenue, c'est une société inclusive. Donc, avec la justice restaurative, ce qui est le but de ce truc-là, c'est de réinclure les personnes qui étaient d'anciens détenus dans la société. Du coup, voilà quelqu'un, un organisme visionnaire.
Cette émission touche à sa fin. On a pu aborder de nombreux sujets sur un thème de société assez tabou. On l'a vu encore une fois, c'était le cas déjà lors du précédent débat, mais que les représentations médiatiques de certaines populations n'aident pas ces populations à avoir leur place dans la société. Là, il a été question de la place du détenu dans la société, de sa réinsertion, de la manière dont sont perçus les détenus et les anciens détenus dans la société. On a parlé également de pratiques artistiques, pratiques culturelles. On a évoqué le thème de la justice restaurative, de la justice française, voilà aussi, et des peines qu'elle pouvait adresser à des individus, tout en justement en tenant compte de la réinsertion et du retour dans la société de ces individus. C'est pour ça qu'on recevait Madame Bott, directrice du centre pénitentiaire. Non, je dis n'importe quoi. Je vais y arriver. C'est la fin. Ça sera coupé au montage. Directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation, merci à tous les étudiants. Je voudrais bien voir la liste pour pouvoir citer ceux qui se sont exprimés au micro. Un grand merci à Unicité qui suscite le débat sur la place publique et tous les citoyens. Je crois qu'on en a beaucoup besoin, on a vraiment besoin de parler entre nous, de revenir sur des fois des visions médiatiques qui sont faites avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, et on s'aperçoit que d'en parler en vrai, en vivant, en public, entre nous, entre adultes, ça permet aussi de voir que on n'est pas tout seul, qu'il y a des solutions qui existent. Alors je vais les citer rapidement. Parmi ceux qui ont participé, il y avait Hakim, Tony, Jérémy, Moana, Yannick, Claire, Marie, Coralie, Jean-Baptiste, et puis donc représentant Unicité, puisque ce sont eux qui ont animé le débat ce soir. On va remercier Shaïsta et Abdullah. Merci à vous.
Merci à vous aussi.